Audiolib présente Le nom de la rose d'Umberto Eco. Lu par François Daubigny avec la participation de Michel Rimbaud.
Note de l'auteur à la nouvelle édition, traduite par Jean-Noël Chiffano. Dans cette édition revue et corrigée de mon roman publié voici 30 ans, les modifications éparses et variées que j'ai apportées au texte originel n'en changent ni la structure narrative ni le style, qui doit être fatalement celui d'un chroniqueur du Moyen-Âge. J'ai éliminé certaines répétitions d'un même terme à quelques pages de distance, et souvent je me suis soucié du rythme, parce qu'il suffit d'éliminer un adjectif ou d'enlever une incise pour rendre plus aérienne une période entière. J'ai fait comme un dentiste quand, une fois placée la prothèse, le patient sent dans sa bouche une sorte de masse et que, d'un infime passage de la roulette, il fait en sorte que les dents semblent mieux s'encastrer. J'ai éliminé de rares bévues dues à une traduction hâtive de mes sources médiévales. Par exemple, j'avais trouvé mentionné dans un herbier de l'époque la cicerbite, qui est une sorte de chicorée, et je l'avais lu comme cucurbitacée, la changeant ainsi en courge. Quant au Moyen-Âge, la courge n'était pas connue, étant donné qu'elle nous est venue plus tard des Amériques. Ainsi en était-il allé pour une mention illicite des poivrons et d'un violon, qui ne pouvait être à l'époque qu'une vielle, une sorte de viol. À un certain point, Atsu dit qu'il a fait quelque chose en une poignée de secondes. Alors qu'au Moyen-Âge, la mesure temporelle de la seconde n'existait pas. Il est vrai que le récit, apparaissant comme la traduction de la version française du XIXe siècle d'un texte médiéval, les secondes pourraient fort bien être imputées à mon abbé Vallée, et moi j'aurais pu laisser tomber la chose. Mais dès lors qu'on est décidé à revoir et à corriger, on devient tatillon. Sans doute les variations les plus consistantes, mais nous sommes toujours dans la fourchette de quelques lignes, concernent-elles la description du visage du bibliothécaire, où je voulais éliminer une vulgaire référence néo-gothique et certaines citations latines. Le latin était et demeure fondamental pour conférer à l'histoire sa saveur conventuelle et témoigner ainsi que certains renvois à des idées de l'époque sont dignes de foi et authentiques. Par ailleurs, je veux toujours soumettre mon lecteur à une certaine discipline pénitentielle. Cependant, une gêne me venait de ce que des lecteurs m'avaient dit. Pour certaines citations, ils se sentaient obligés de consulter un dictionnaire de latin. C'était trop. Ils perdaient la fluidité du récit. Peu m'importe que les citations latines soient comprises, surtout quand ce ne sont que de simples titres de livres. Elles servent à donner l'impression de lointains historiques. Mais je m'étais aperçu que quelquefois, si l'on ne comprenait pas la citation, on ne comprenait pas bien ce que je racontais. L'éditeur allemand s'était senti obligé de placer en appendice un petit dictionnaire avec la traduction des phrases latines, ce qui m'avait semblé excessif. Mon éditrice américaine, Hélène Wolff, m'avait fait remarquer qu'un lecteur européen, même s'il n'avait pas étudié le latin à l'école, gardait en tête quantité d'inscriptions lues au fronton des palais ou des églises. Et il avait entendu quantité de citations, soit philosophiques, soit juridiques, soit religieuses, en raison de quoi il ne restait pas terrorisé par des mots que sais-je comme « dominus » ou « legitur ». Un lecteur américain, en revanche, aurait éprouvé des difficultés beaucoup plus sérieuses, comme